Alors, bonjour, nous sommes à la mairie de Cabrières, aujourd'hui, en ce lundi 19 février, pour parler d'une découverte assez exceptionnelle qui a été faite ici, une découverte scientifique. Je suis avec quatre personnes qui vont se présenter, je crois que c'est le mieux. Je vous laisse vous présenter, Éric Monseret.
Éric Monseret, donc amateur en... amateur en paléontologie.
Première difficulté. C'est-à-dire, vous êtes...
Ouais, donc, avec Sylvie, donc, on cherche, en dehors de nos heures de travail, donc, dans le domaine de la paléontologie. On a commencé, quand on avait l'âge, à peu près à l'âge de 20 ans, on a commencé tout simplement, sans prétention, en ramassant des fossiles. Et ensuite, on a rencontré des personnes qui étaient des amateurs aussi, mais qui travaillaient avec des universitaires. En fait, ça a été une histoire de rencontre. Et ces personnes donc, nous ont fait connaître donc, des chercheurs qui, au fil des années, et des quelques découvertes qu'on a faites au début, nous ont permis donc, de participer avec eux sur quelques notes, quelques publications. Donc, on a commencé comme ça. Donc, on a travaillé voilà, au début en simple collaboration.
Et vous habitez Cabrières ?
Ah non, on habite Carcassonne, mais on est quand même originaire du coin. En fait, les parents de Sylvie habitent juste à côté. Donc en fait, oui, on a un pied à terre.
Et on va voir dans un instant ce que vous faites ici. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Donc, du coup...
Je suis la femme d'Éric, vous serez. Donc pareillement, voilà, c'est ce qu'on peut dire, paléontologue amateur. Okay. Tout à fait.
On y revient. Avec Bertrand Lefebvre aussi.
Oui, donc bonjour, Bertrand Lefebvre. Donc moi, je suis paléontologue aussi. Je suis chargé de recherche au CNRS, à l'Université de Lyon. Et effectivement, ça fait plus de 25 ou 30 ans qu'on travaille, qu'on collabore et qu'on s'amuse bien avec Éric et Sylvie, qui disent sont des amateurs, mais en fait, c'est des naturalistes, je dirais, chevronnés et passionnés, qui font un énorme travail. Et s'ils n'étaient pas là, il y a plein de découvertes qui n'auraient jamais eu lieu, notamment celle-ci, mais plein d'autres. Parce qu'effectivement, nous, à l'université, on a de moins en moins de crédits et de temps pour aller sur le terrain. Et si on n'avait pas des gens qui, sur place, font un énorme travail, ben, en fait, beaucoup de découvertes n'auraient jamais lieu. Donc, aujourd'hui, un grand merci.
On va revenir sur cette découverte. Et Myriam Guéraud.
Donc, Myriam Guéraud, ben, maire de Cabrières, de ce magnifique village qui a beaucoup de fossiles, qui a beaucoup de choses archéologiques, paléontologiques, mais qui est un village qui est vivant et qui aime découvrir les choses anciennes, mais pour les faire découvrir aussi aux gens.
Alors, Éric et Sylvie Monseret, on remonte à 2018 pour parler de cette découverte qui a été faite, un site exceptionnel de fouilles archéologiques. Paléontologique, ben voilà, très bien, c'est parfait, je mets les pieds dans le plat. Paléontologique, alors, est-ce qu'on peut déjà décrire ce site et son importance ?
L'importance de ce site est liée au fait que la conservation des fossiles est assez exceptionnelle. On peut trouver certains fossiles mous, à corps mou, tels que des vers, par exemple. Et l'autre chose exceptionnelle, c'est la diversité. Une grande diversité de fossiles, de groupes, de familles, d'espèces, de genres. Et ça, c'est assez exceptionnel. D'autant plus que ce site, à l'époque, était situé en zone polaire. Donc c'est quelque chose de très, très important pour l'état actuel des sciences, pour la connaissance scientifique des fossiles, mais aussi pour se rapprocher de l'état actuel des choses, de notre problème de réchauffement climatique.
À l'époque, c'est-à-dire l'ordovicien, si je ne me trompe pas.
Ordovicien.
Je vais toutes les faire, de toute façon, aujourd'hui. Ordovicien, donc.
Oui, étage qui correspond à peu près 480 millions d'années. Donc très ancien, on a une époque où en fait on est au début de la mise en place des écosystèmes. Donc ce sont tous les premiers groupes qui occupent toutes les niches écologiques. Il faut savoir qu'à cette époque-là, donc on termine d'une époque où la vie sur Terre était plutôt à l'état, on va dire, microscopique, plutôt du zooplancton. Et à cette époque-là, c'est un peu cette particularité, c'est ce qui leur rend très intéressant, c'est que là, tous les grands groupes qui correspondent aux vivants actuellement donc se mettent en place à cette époque-là. Donc pour nous, c'est une période charnière, une période clé. Donc on voit apparaître tous les écosystèmes qui se mettent en place sur toute la planète.
Ouais. En fait, quand on dit qu'ils se mettent en place, ils se sont mis en place juste à l'époque précédente du Cambrien. Et là, c'est la grande diversification.
Voilà, ça correspond à une très grande diversification qui, bon, par manque de sites fossilifères, on ne savait pas s'il y avait continuité ou pas. A priori, oui. La particularité, c'est qu'on est encore... La planète, à l'époque, est relativement chaude. Les eaux sont très chaudes. Et une des clés de cette diversification serait effectivement qu'on serait sur des eaux froides, bien oxygénées, qui expliqueraient cette diversité. Voilà l'histoire, en gros.
Et ce site, donc, qui suit la période cambrienne,
c'est ça.
Ça revêt une importance toute particulière pour le monde scientifique, Bertrand Lefebvre.
Oui, parce que comme l'ont dit Eric et Sylvie, au cours du Cambrien, c'est vraiment les grands groupes animaux qui apparaissent pour la première fois. Donc on a les premiers arthropodes, les premiers mollusques, donc tous les embranchements. Hein. Mais chacun de ces embranchements est représenté par très peu de formes différentes. Le Cambrien est comme une époque très particulière. Le Cambrien, c'est à peu près entre 540 et effectivement 480 millions d'années. Et on a un intervalle d'à peu près 15 millions d'années au cours du Cambrien, pendant lequel on a la plus grosse quantité de gisements à préservation exceptionnelle. Donc ces gisements dans lesquels on peut trouver non seulement des carapaces, des coquilles, mais aussi des parties molles et des animaux qui normalement ne se fossilisent pas. Et si bien que paradoxalement, on a peut-être 100-150 gisements comme ça dans le Cambrien qui permettent de bien connaître les premières étapes de l'histoire de la vie. Par la suite, dans les 480 millions d'années qui suivent jusqu'à nos jours, on en a extrêmement peu de ces gisements. Ce qui fait qu'on a du mal à comparer ce qui s'est passé au tout début, pendant cet intervalle de 15 millions d'années, avec ce qui est après. Et la grande diversification ordovicienne, dont a parlé Sylvie, là, uniquement à partir des coquilles et des carapaces, on se rend compte que le nombre d'espèces, de genres, de familles est multiplié par 2, par 3, par 4, par 5. C'est la plus grosse augmentation en diversité qu'on peut documenter, mais on ne peut documenter qu'à partir de ces restes minéralisés. L'avantage du gisement de Cabrières, c'est que c'est un des très rares sites au monde, on compte 2-3 de cet âge-là, dans lesquels on a accès également aux faunes molles. Et donc du coup, au lieu d'avoir, faut voir que dans la nature actuelle, on estime que par exemple, si on est allé au bord de la mer, il y a à peu près entre 10 et 20% des animaux qui potentiellement peuvent se fossiliser. Donc il y a 80% qui passent complètement en dehors des radars. Et ces animaux qui peuvent se fossiliser, donc qui ont des carapaces ou des coquilles, c'est ce qu'on trouve dans 98% des sites fossilifères dans le monde. Là, on est dans les 1 ou 2% d'exceptionnels. On va avoir non seulement cette petite frange qu'on a habituellement, mais on peut monter peut-être à 50, 60, 70, 80% des communautés de départ. Donc on peut réellement reconstituer des écosystèmes. Et Cabrières, c'est un 2-3 gisements de cette époque où on peut vraiment avoir un aperçu, pas global, on n'a jamais tout, mais presque global des écosystèmes de l'époque. Et donc c'est fondamental. Et l'autre avantage, c'était dit aussi, c'est qu'à cette époque-là, il y a le gisement de référence, un gisement qui a été trouvé il y a à peu près 15 ans au Maroc. On a des latitudes déjà assez élevées. Il y a 2 ans, les Chinois, ils étaient un peu vexés, donc ils ont trouvé la même chose, mais en milieu tropical. Et là, Cabrières, on est vraiment au pôle sud. Donc on balaye une gamme de latitudes et on voit effectivement qu'on retrouve à peu près le même motif avec ce mélange de faune cambrienne qu'on pensait éteinte. Notamment, il y a plein de formes un peu bizarres qu'on a du mal à faire entrer dans les groupes actuels. Et bien en fait, ils sont toujours là, ils sont toujours abondants, ils sont toujours diversifiés. À côté, en même temps, que les bêtes typiquement ordoviciennes qui, elles, sont en train d'apparaître, se diversifier, donc toutes les bêtes qu'on connaît actuellement dans les groupes actuels. Et donc ça, c'est vraiment important, ça montre, ça c'est Eric qui l'avait dit, qu'on a vraiment ce continuum entre l'explosion cambrienne et la diversification ordovicienne. Donc les animaux, c'est pas deux phases successives au cours du temps, mais c'est vraiment une diversification progressive dans les océans, c'est tout est marin à l'époque, hein, sur plus de 100 millions d'années. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus continu. Et ça, on pouvait pas le savoir si on n'avait pas trouvé des gisements tels que ceux de Cabrières, parce que si on a uniquement les carapaces et les coquilles, on ne peut pas appréhender ça. On ne se rend pas compte, on a plutôt l'impression d'avoir deux événements, mais en fait on loupe l'essentiel de l'information.
Découverte scientifique majeure.
Ah oui, complètement. Ouais. Là, c'est, j'irais dans le top 3 mondial pour l'époque, donc là c'est vraiment, il n'y a vraiment rien d'équivalent au monde. Et donc même si on n'est qu'au début, si on suit la courbe, on peut prédire à peu près le nombre de, en fonction du nombre de fossiles qui sortent et à chaque fois de formes nouvelles qu'on trouve, on peut prédire à peu près déjà rien que sur les bêtes minéralisées, on en a plus de 50-60 taxons, c'est énorme, espèces différentes. Si on rajoute les bêtes molles,
taxons,
oui, espèces, on peut multiplier ça au moins par 2. Et là, c'est un des espèces, je dirais, les plus intéressants, c'est ce qui a été dit aussi juste avant, c'est que ce qui est étonnant, c'est qu'on ait une telle diversité en zone polaire. Et, parce qu'actuellement, les points chauds de diversité dans les océans, c'est où ? C'est aux Caraïbes, c'est en Indonésie, c'est dans les eaux chaudes. Et quand on va vers les hautes latitudes, que ce soit vers le pôle nord ou vers le pôle sud, on a beaucoup d'animaux, on a des nuages de krill, il y en a plein, mais c'est peu diversifié. Il y a peu d'espèces qui sont présentes au même endroit. Les animaux peuvent être présents en abondance, mais ils sont peu diversifiés. La diversité baisse quand on va vers les hautes latitudes. Là, ce qui est surprenant, c'est qu'on... Quand on va à l'époque, au début de l'Ordovicien, en zone tropicale, on a des diversités assez faibles et que la diversité augmente en allant vers les pôles. C'est un motif qui est complètement différent de celui qu'on a actuellement. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la fin du Cambrien et le tout début de l'Ordovicien, c'est une période qui a un effet de serre, un climat qui est anormalement élevé. Donc d'après les estimations, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est avec des grosses marges d'erreur, mais on serait l'ordre de 10-12 degrés en température moyenne sur le globe, au-dessus de ce qu'on a actuellement. Donc il faut bien voir que les zones les plus favorables au développement de la vie dans le domaine marin se sont décalées vers les hautes latitudes. Et dans les basses latitudes, quand il y a des eaux de surface à 40-45 degrés, bah, les bêtes en surface... Elles ne peuvent pas survivre. Donc on a très peu de faune, et ce qui fait même l'intérêt de la montagne noire, parce que, c'est qu'on a une diversité extraordinaire, c'est là que tout se passe. Et au cours de l'Ordovicien, les températures vont progressivement diminuer, donc de manière très régulière, donc là on est sur du 20, 30, 40 millions d'années, et dès l'Ordovicien moyen, donc un petit peu après Cabrières, on va progressivement repartir des températures qui se rapprochent de l'actuelle, et ça va même s'amplifier, puisqu'à la fin de l'Ordovicien, on finit par une glaciation, c'est même l'inverse, mais au cours de l'Ordovicien, le fait que les températures retrouvent des gammes, je dirais, plus normales, on va voir les faunes qui vont quitter les hautes latitudes, et les points chauds qui vont se remettre en domaine équatorial. Ça, on l'observe parfaitement. Donc là, le point chaud de diversité de l'époque, c'est les zones de haute latitude, polaires, subpolaires, et là, on est en plein dedans.
Là, le site que vous avez trouvé, c'est en fait un site où se sont réfugiées certaines espèces quand il y a eu un effet de serre.
Complètement. Bah, les espèces suivent les conditions environnementales qui leur sont favorables. Nous, on a des cigales à Lyon en ce moment. C'était impensable il y a 20 ans. Il y a la même chose dans les océans. Les animaux, ça s'adapte, se déplace quand ils le peuvent. Ou meurent quand ils ne peuvent pas, mais les écosystèmes se déplacent pour rester dans les conditions climatiques et environnementales qui leur sont plus favorables. Et là, clairement, on a un déplacement des faunes à la fin du Cambrien vers les hautes latitudes, et après, elles retournent vers les basses latitudes au cours de l'Ordovicien.
Est-ce que ça veut dire que ça vous aide à comprendre aussi, en plus de lire ce qui s'est passé à l'époque, ce qui pourrait se passer au fil...
C'est déjà ce qu'on observe actuellement. Il y a des mouvements de flore, de faune, que ce soit dans les océans ou sur Terre. La grosse différence avec l'actuel, c'est que là, on est sur des pas de temps extrêmement courts. Là, les changements qui se produisent à l'heure actuelle sont très, très, très rapides, incomparablement plus rapides que là. On est sur des échelles de plusieurs centaines de milliers d'années, plusieurs millions d'années. Et donc, les écosystèmes ont le temps de s'adapter, progressivement de bouger. Actuellement, ça va très vite. De ce côté-là, c'est pas comparable. Les effets sont les mêmes. On observe les mouvements de faune, les mouvements de flore. Mais par contre, est-ce que les écosystèmes auront réellement le temps de s'adapter derrière ? C'est moins évident, quoi.
Sylvie et Eric, est-ce que vous avez la conscience d'avoir fait une découverte qui est dans le top 3 mondial ?
Oui.
Sur cette montagne noire.
Oui. Quand on l'a découvert, bon, on a bien compris qu'on avait quelque chose qui était pas ordinaire. Mais non, on ne s'attendait pas quand même à à cette médiatisation quelque part, un tel engouement de la part des médias et du public. Mais bon, enfin, quelque part, c'est une bonne chose qu'on ait trouvé quelque chose, d'important pour la science, parce que bon, ça va pouvoir alimenter, les universitaires en projet, en recherche. Donc là, on est parti...
En thèse pour les étudiants.
En thèse, oui, pour les étudiants, oui, c'est ce qu'il y a de bien, c'est que ça va faire travailler finalement beaucoup de gens, surtout après ça nous... fait poser beaucoup de questions. Peut-être que ça va nous amener des réponses à des problématiques auxquelles on se confronte aujourd'hui.
C'était en 2018, comment ça s'est fait juste ?
Oui, comme disait Bertrand, effectivement, les premières, ces faunes avaient été découvertes dans un premier temps au Maroc. Donc c'est un niveau équivalent. Donc on avait donc le même niveau, niveau similaire, sauf que bon, eux avaient trouvé donc des animaux effectivement à conservation exceptionnelle, et nous, il n'y en avait pas. On s'était dit, on s'était posé la question, c'est curieux, pourquoi il y en a là-bas et pourquoi pas chez nous? On avait quelques indices. On avait trouvé quand même quelques bêtes un peu curieuses, étonnantes, mais pas suffisamment pour faire, faire un super...
Un site à conservation exceptionnel. Ouais. Au départ, on en rêvait un peu, on se doutait, on en rêvait, mais on n'était pas capable de se dire, oui, on n'avait pas assez d'éléments encore au départ.
Donc on a fait quelques petites campagnes de prospection de routine, on a fait quelques de vérification, mais c'était pas une recherche, on n'était pas parti là-dessus de trouver ça, c'était pas une recherche systématique, c'était plus des vérifications.
Mais il faut dire qu'on ne cherchait pas que là, on cherchait sur toute la montagne noire, donc on était occupé ailleurs aussi.
Voilà.
C'est pour ça aussi.
Donc c'était des recherches un peu annexes. Et c'est lors d'une de ces phases de routine, voilà, qu'on est tombé sur ce gisement.
Vous avez tout de suite compris sur quoi vous étiez tombé ?
Dans l'immédiat, pas. Enfin.
Compris, oui, pas
compris,
réalisé.
Compris, oui, mais on n'avait pas mesuré l'ampleur. Voilà. L'ampleur. Donc on a attendu, on y est revenu quelques fois pour être quand même sûr de ce qu'on voyait.
Pour ramasser un maximum d'échantillons avant de les envoyer à Lyon.
Oui, voilà. On a essayé de faire quand même un package complet, on va dire, avant de l'envoyer. Et dès qu'on l'a fait passer, bon, ça réagit de suite favorablement, quoi.
Myriam Guéraud, c'est une excellente nouvelle pour la commune. Et en même temps, ça met en lumière aussi Cabrières, peut-être de façon extrêmement forte. Comment on appréhende ça quand on est maire de cette commune ?
Ben, en fait, nous, on est connus pour la mine de Piochefarus avec les mines de cuivre qui sont les plus vieilles d'Europe. On est connus pour le vin. On sait qu'à l'époque, il y avait l'hôtel des géologues, donc on sait qu'il y a quand même des fossiles qui avaient été trouvés. Mais là, quand Sylvie m'a appelé, donc c'était le mardi avant le 9 février, je m'en souviendrai tout le temps, elle me dit, je crois qu'il faut qu'on se voit rapidement parce qu'on a fait une découverte qui date de 2018, mais on pense que on est sûr maintenant, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, mondialement exceptionnel. Donc du coup, c'est sorti le vendredi, le 9 février. Je me souviens des dates, je pense que je ne les oublierai pas. Et là, en fait, nous, on a compris que la chose était très, très, très importante, vu les nombres de coups de fil que je recevais. À partir du moment où Nature a fait... je pense que c'est eux surtout qui ont enclenché le truc. Donc, le CNRS a publié, l'ordre c'est ça, CNRS publie, Nature ça n'en parle, et derrière, tout le monde s'en employé. Quoi. Il suffit d'aller sur Google, de taper « Biota Cabrières », quand j'ai vu que c'était traduit en cyrillique, quand j'ai vu que c'était traduit en mandarin, je me suis dit, aïe, 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 c'est quoi ça?
Donc, et bientôt sur RPH.
Et bientôt sur RPH, donc voilà. Et sur RPH, c'est quand même très important parce que c'est local. Et justement, cette vulgarisation des découvertes, c'est quand même important parce que je pense que dans le village, il y a peu de gens qui savent qu'on a quand même, on vient de découvrir quand même quelque chose d'exceptionnel mondialement à Cabrières. Et du coup, les radios locales, c'est très important qu'elles soient là. Parce que les gens vous écoutent et ça va permettre de vulgariser, de comprendre qu'à Cabrières, il y a cette découverte. Nous, après, on est plutôt dans la discrétion parce qu'on veut absolument préserver le site, parce que c'est important, parce que c'est pour la science. Et que si on part dans tous les sens et si on commence à voir des gens qui arrivent avec des pioches et qui croient que... Non, le site, pour l'instant, il est gardé secret. C'est sûr qu'il est à Cabrières, il n'est pas à Cabrières dans le Gard, il est à Cabrières dans l'Hérault, ça c'est sûr et certain. Puisque, voilà. Mais même l'autre jour, j'ai quand même eu le préfet qui, en partant, m'a dit « Préservez, protégez vos fossiles ». Donc c'est quand même quelque chose d'important. Ça n'appartient pas à quelqu'un, ça appartient à l'humanité. Ça appartient à tout le monde. Et c'est pour ça que, collectivement, on va travailler ensemble. Parce qu'il faut avancer, c'est important. Quand on écoute parler, que ce soit Sylvie, Eric ou Bertrand Lefebvre, on voit bien l'importance. Hein. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. On a travaillé aussi avec l'association qui s'occupe de la mine de Piochefarus, qui sont plutôt des archéologues, mais qui sont aussi passionnés par ça, et qui avaient déjà fait des petites découvertes, donc qui sont fans de les rencontrer. Donc, voilà. Mais oui, on a pleinement conscience de l'importance de la chose. Hein, et on va faire en sorte que ça nous fasse un petit peu de pub au village, mais tout en préservant et en faisant bien comprendre que c'est hyper important de la protection.
C'est fondamental, parce que là, on est vraiment encore au tout début des travaux. Là, il y a une campagne de fouilles qui aura lieu dans quelques semaines. Donc, c'est évident qu'il y a tout déjà les aspects de contextualisation du site. Il faut qu'on lève des coupes, qu'on précise l'environnement, l'âge précis. Donc, il y a plein de relevés précis à faire. On ait une bonne image des sites ou du site vraiment avant le début des fouilles. Et après, on pourra commencer vraiment à faire quelque chose de propre, je dirais, niveau par niveau. Donc, il faut le garder, le plus pur, le plus propre, le plus intact possible, parce que toute information qui est prélevée est perdue. Et c'est, pour nous, c'est très important d'avoir l'idée la plus complète, la plus exhaustive de l'état des lieux avant qu'on commence quoi que ce soit. Si le site est saccagé avant, c'est des informations qui seront perdues à tout jamais. C'est comme si vous avez sur la scène d'un crime et qu'on a enlevé le cadavre, qu'on a enlevé tous les indices, on ne peut pas dire grand-chose. Donc nous, là-dessus, ils ont fait un excellent travail, Eric et Sylvie, parce qu'ils ont fait de la prospection poussée, mais ils ont gardé le site intact. Donc là, vraiment, tout est propre et on peut vraiment attaquer avec des différents spécialistes. Donc il y aura des gens qui vont étudier les sédiments, des gens qui vont étudier la géologie, qui vont étudier différents groupes fossiles. Donc tout est parfait. C'est une découverte, je dirais, extraordinaire et qu'on retrouve dans son jus. Et là, on pourra en retirer un maximum d'informations. Ouais, donc ça, c'est vraiment important que tant que les fouilles, les études ne sont pas terminées, le site reste préservé du grand public. Alors après, on verra peut-être dans un second temps, dans plusieurs années, quand tout aura été publié. Voilà. Mais pour l'instant, il faut qu'on puisse l'étudier dans des bonnes conditions.
Donc, appel aux passionnés, restez chez vous pour l'instant.
Oui. Ils auront sans l'occasion de venir plus tard et de lire les publications. On fera tout ce qu'il faudra. Mais pour l'instant, effectivement, c'est important de garder le site le maximum de l'état, qu'on puisse exploiter, ne pas perdre d'informations.
C'est-à-dire, nous, on essayera, dès qu'on peut, de faire une expo ou quelque chose comme ça. Parce que les gens ont envie. Donc, autant montrer, mais pas sur le site. Voilà. Sur le site, pour l'instant, il faut qu'on le préserve. Donc, autant montrer, oui. Oui, bien sûr, alors un partenariat avec la CAV, enfin on verra quoi. Mais il faut préserver le site.
Une exposition en préparation.
Oui, on va y réfléchir. On a réunion après-midi, il faudra bien qu'on fasse quelque chose. Hein. Donc c'est trop important pour ne pas le communiquer ou montrer des choses.
Est-ce que vous avez maintenant le statut de superstar paléontologue ?
Non, quand même pas. Non. Nous, on a toujours été discrets, et ça, c'est notre façon d'être, je veux dire, et on compte le rester. Bon, c'est juste, on va dire, c'est un peu... Ouais, on a eu une espèce de flash, de mise en lumière, là, mais bon, je veux dire, maintenant, la nouvelle est passée, et on va passer à autre chose.
Hein. On va retourner sur le terrain, tranquille.
Oui, voilà.
Avec nos cailloux, nos marteaux, puis terminé.
Plus sérieusement, la prochaine campagne, donc il me semble, je ne sais pas si on peut le dire, c'est avril, c'est ça, la prochaine campagne de fouilles ? Est-ce qu'on peut le dire déjà ?
Oui, au printemps, c'est pas bien établi encore, mais c'est au printemps.
Donc c'est une équipe internationale, donc il y aura évidemment Eric et Sylvie, il y aura Daniel Vizcaino de Carcassonne qui est notre maître,
maître de la paléontologie, Daniel Vizcaino de la Montagne Noire.
Paléontologue entre guillemets amateur, mais qui a une stature internationale, elle est mondialement connue, c'est un des meilleurs spécialistes de la Montagne Noire, voilà. Pour toute la géologie. Et effectivement, il y aura donc l'Université de Lyon, l'Université de Lausanne, l'Université de Brest. Donc on aura des chercheurs accomplis, on aura des étudiants pour les former, c'est important. Et surtout, on va recroiser plein de compétences différentes pour tous ensemble essayer de sortir un maximum d'informations. Et en étroite collaboration, évidemment, avec Eric et Sylvie, ça va de soi.
Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Les photos, elles sont déjà sur Internet largement. Elles sont aussi sur rphfm.org. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis à très bientôt donc, pour la suite de cette aventure à Cabrières, dans les Roues et non pas dans le Gard. Merci.